Une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leur troupe sillonne nos ruelles?
Billets d'Afrique, de fréquence 7 pour ce mois de mars, est inspiré de la revue de l'association Survie, Billets d'Afrique, d'actualité de l'ONG internationale WSRW, Observatoire des ressources du Sahara occidental, de la revue de l'association AFASPA et de différents médias pour les textes sur la condamnation de l'État belge et des conséquences des essais nucléaires français en Algérie. Vecteur de fascisation, Bolloré de l'empire colonial à l'empire médiatique. Désarmer Bolloré, c'est la campagne lancée par une centaine d'organisations contre le milliardaire, grand promoteur de l'extrême droite. L'occasion pour Survie de dénoncer une fois encore les fondements néocoloniaux de l'empire Bolloré. En juillet dernier, à la suite des législatives qui ont failli conduire le Rassemblement national au pouvoir dans notre pays, une centaine d'organisations politiques et syndicales, parmi lesquelles Survie, ont lancé un appel à désarmer l'empire Bolloré, proclamant « Nous devons, sans attendre de prochaines échéances électorales, unir nos forces contre les vecteurs de fascisation de la société ». C'est peu dire en effet que Vincent Bolloré en est un puissant vecteur. Le milliardaire, 8e fortune française en 2024 avec sa famille selon le magazine Forbes, n'a cessé de s'emparer d'un nombre croissant de médias de masse, sans compter plusieurs maisons d'édition, pour les mettre au service d'une idéologie sexiste, homophobe, écocide, mais aussi raciste et coloniale. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que tout le parcours de cet oligarque renvoie au néocolonialisme le plus véhément. Car son groupe tentaculaire et son immense fortune, aujourd'hui au service d'un idéal réactionnaire, Bolloré les a bâtis d'abord en pillant l'Afrique. Après un passage par la banque Rothschild et la reprise de la papeterie paternelle, le jeune héritier commence à investir sur le continent en 1985. D'abord dans l'agriculture, en pratiquant allègrement l'accaparement des terres et en privilégiant les productions hautement rentables, tabac, cacao, bois, café, caoutchouc, huile de palme, exploitées dans des conditions parfois proches de l'esclavage. Puis très vite, dans les transports et la logistique, le groupe devient l'un des plus importants gestionnaires de terminaux portuaires et lignes maritimes du continent et se positionne également dans les chemins de fer. À partir de 1996, il prend le contrôle de la banque Rivaux, institution de la période coloniale, propriétaire d'immenses plantations en Afrique, connue pour son implication dans les finances douteuses du RPR. Bolloré s'implante ainsi dans plus d'une quarantaine de pays africains. Une expansion qu'il réussit en s'allouant les services, à Paris comme en Afrique, de nombreux politiciens, hauts fonctionnaires cadres du renseignement et autres magistrats. Bolloré s'appuie largement sur les réseaux officiels et officieux de la France-Afrique quand il ne se substitue pas à eux. Il fait ainsi affaire avec nombre de dictateurs, figures passées ou actuelles du système, tels Blaise Compaoré au Burkina Faso, Omar Bongo au Gabon ou Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Au chef d'État prêt à servir ses intérêts, Bolloré offre en retour la force de frappe de son groupe, notamment sur le plan communicationnel. Si l'oligarque s'est aujourd'hui si bien influencé sur la vie politique française, nul doute qu'il le doit, au moins en partie, à ses années d'entraînement. Ont ainsi pu bénéficier des faveurs des médias Bolloré, le Sénégalais Abdoulaye Wad, le Camerounais Paul Biya, l'Ivoirien Laurent Gbagbo. Le soutien est parfois plus brutal, comme en Guinée-Conakry en décembre 2023, lorsque Canal+, propriété de la famille Bolloré, coupait le signal de 3 chaînes de télévision critiques vis-à-vis du président Mamadi Doumbouya. Le système Bolloré en Afrique, ce sont aussi, sans surprise, des pratiques plus opaques pouvant aller jusqu'à la corruption. En juin dernier, le parquet national financier a ainsi requis un procès contre l'homme d'affaires et 2 de ses collaborateurs. Entre 2009 et 2011, le groupe Bolloré a en effet mis gracieusement d'importants moyens au service des campagnes électorales d'Alpha Condé en Guinée et de Faure Gnassingbé au Togo contre l'attribution frauduleuse de la gestion des ports de Conakry et de Lomé. Autre pays, autre port, autre soupçon de corruption. On a appris en 2024 qu'une autre enquête était en cours concernant les conditions d'attribution en 2015 du terminal pour containers de Kribi dans le sud du Cameroun. Cerné par les scandales et les affaires, Bolloré a finalement vendu, à regret et à prix d'or, son pôle logistique et maritime historique en 2022. Pour autant, il est loin d'en avoir fini avec le continent africain, où il conserve de nombreuses activités dans l'agriculture, le stockage d'énergie et les médias. Déjà plus grand fournisseur de télévision par satellite d'Afrique francophone, Canal+ est même en voie d'acquérir l'autre grand géant de la télévision payante du continent, le sud-africain MultiChoice. De quoi conserver un important pouvoir de nuisance. Perpétuateur de la domination coloniale en Afrique, promoteur de l'extrême droite dans l'Hexagone, Bolloré offre là un visage très cohérent. Comment ne pas voir derrière son mépris des droits les plus élémentaires des Africains et de leur vie même, le racisme le plus élémentaire, et dans sa volonté de domination sur le monde économique et politique africain, un attachement à la grandeur impériale de la France, si ce n'est de l'Occident? Autant de cancers qu'il nous faudra bien éradiquer. Texte de Benoît Godin. Pour suivre la campagne Désarmer Bolloré sur le web, c'est https://désarmerbolloré.net. L'armée française en Afrique, est-ce le début de la fin? La contestation de la présence militaire française en Afrique se généralise et s'accélère, contrariant les projets de l'Élysée et de l'état-major qui pensaient pouvoir maintenir un dispositif renouvelé mais plus discret. Les récents camouflets sénégalais et tchadiens sonnent-ils vraiment le glas de l'ingérence militaire hexagonale? En Centrafrique, où les relations devenaient de plus en plus tendues avec le régime du président Faustin Archange Touadéra, l'armée française a progressivement réduit ses effectifs à partir de 2021 et finalement abandonné sa dernière implantation fin 2022. Au Mali, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Les pressions françaises pour empêcher l'arrivée du groupe militaire privé russe Wagner ont conduit à une rupture avec le nouveau pouvoir. Depuis 2022, la France a annoncé le retrait de l'opération Barkhane et le Mali la rupture de tous les accords militaires existants. En 2023, c'est au tour des autorités burkinabées, également issues d'un coup d'État, de dénoncer les accords militaires signés à l'indépendance ou au moment de l'opération Barkhane et d'exiger la fermeture de la base des forces spéciales françaises du commandement des opérations spéciales. L'été suivant, la France ayant tenté d'intervenir militairement contre les putschistes nigériens, ces derniers ont chassé les troupes françaises et fermé la base aérienne de Niamey. Ces départs contraints, sur fond de contestation populaire généralisée de la présence militaire française dans la région, ont accéléré les projets de réorganisation du dispositif français. Il fallait réduire, se faire discret et se montrer plus à l'écoute des besoins des partenaires pour sauver l'essentiel. La finalisation a été confiée au sénateur Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du chef de l'État français. À peine le rapport Bockel remis à l'Élysée le 25 novembre 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye faisait savoir à la presse française que son contenu était déjà caduque. Les militaires français devaient partir. Le même jour et de manière plus inattendue, les autorités tchadiennes annonçaient la rupture de l'accord de coopération militaire en matière de défense. Accord signé en 1976 et révisé à l'occasion de Barkhane, après un entretien apparemment houleux avec le ministre français des Affaires étrangères en visite dans le pays. Pensant sans doute infléchir la décision tchadienne, les Français ont immédiatement rapatrié les avions de chasse qui avaient à plusieurs reprises sauvé la mise du régime des bipères. Le Tchad a alors exigé un calendrier de départ resserré et les bases françaises ont commencé à être restituées. Si plusieurs raisons conjoncturelles ont pu motiver la décision tchadienne, elle s'inscrit dans une stratégie de diversification des partenariats sécuritaires et dans un contexte politique régional où il devient politiquement risqué d'apparaître militairement inféodé à Paris. Pour cette raison, tous les yeux sont évidemment tournés vers les deux autres pays ouest-africains qui abritent encore des bases militaires françaises, la Côte d'Ivoire et le Gabon. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara, fidèle allié du président Macron, a, le 31 décembre, annoncé à son tour un retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire et une rétrocession de la base militaire de Port-Boué. Cette annonce, qui a alimenté des contresens médiatiques, s'inscrit dans la stratégie décidée par la France et devrait permettre le maintien d'une centaine de militaires français, du moins pour l'instant. Car si cette question devient l'un des enjeux de la prochaine élection présidentielle, la donne pourrait changer. La question se pose également du Gabon, où il n'est pour l'instant question que de réduire le nombre de militaires présents de 350 à quelques dizaines. La plus importante présence militaire française est désormais concentrée de l'autre côté du continent, à Djibouti. Cette base militaire n'était pas concernée par les projets de déflation, au motif que sa vocation n'était pas africaine, mais indo-pacifique. Pourtant, elle doit continuer à servir de point de projection pour certaines de nos missions africaines, a assuré le président Macron le 20 décembre dernier. Le traité de coopération en matière de défense vient d'y être renouvelé, moyennant un loyer annuel de 85 millions d'euros pour la base militaire, contre 30 auparavant. Et il inclut toujours une clause de défense territoriale du pays. Selon l'Élysée, cet accord légitime la présence française à Djibouti pour les prochaines décennies. Rien que ça. Si le mouvement de contestation s'amplifie et si le volume des militaires français présents en Afrique diminue incontestablement, la volonté des autorités françaises à continuer à exercer une influence par l'outil militaire perdure. L'exécutif semble aujourd'hui privilégier une stratégie de diversification de la coopération militaire, dans ses modalités comme dans sa géographie, pour pallier la baisse numérique. L'avenir dira si cette stratégie lui permet de continuer à s'ingérer dans les crises africaines, notamment par le biais d'opérations extérieures, qui n'ont pourtant que trop duré. Raphaël Granvaux. Total enfer en Ouganda. Un nouveau rapport révèle que l'accélération de la construction des méga-projets pétroliers EACOP, Tilenga et Kingfisher en Ouganda a donné lieu à de nouvelles violations de droits humains. Ces projets, parmi les plus importants au monde, dénoncés par les ONG pour être particulièrement écocides, sont menés par Total Energy, actionnaire principal, et le chinois CNOOC, en coopération avec les gouvernements de l'Ouganda et de la Tanzanie. Ce rapport, publié en décembre 2024 par la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, et Avocats sans frontières, établit que les atteintes les plus graves documentées sur les sites pétroliers ont eu lieu dans et autour des champs pétroliers de Kingfisher. Les mesures de sécurité disproportionnées, la répression contre les opposants, les violations du droit foncier, les expulsions forcées et la corruption, combiné à l'inadéquation de la conception des projets et au caractère inadapté des mesures d'atténuation des risques, se traduisent par une augmentation de la détresse des populations locales. Plusieurs cas de harcèlement sexuel, de viol et d'exploitation sexuelle, y compris sur des mineurs, y sont aussi documentés. Les agents armés chargés de la sécurité imposent aux femmes des rapports sexuels pour échapper aux sanctions infligées pour vente de poissons pêchés dans le lac Albert, le personnel des compagnies pétrolières faisant de même en leur promettant une embauche. Coutumier du mensonge, Total évidemment dément. Le 28 janvier 2025, le Conseil d'État français a confirmé la décision de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'étiquetage des produits importés du Sahara occidental. La décision maintient que les produits récoltés sur le territoire du Sahara occidental doivent être étiquetés comme provenant du Sahara occidental et non du Maroc, conformément aux lois et réglementations de l'Union européenne. Le Conseil d'État juge aussi que la mesure d'interdiction demandée par la Confédération paysanne relève de la responsabilité des autorités européennes. L'affaire a été portée devant la Cour française par le syndicat des agriculteurs français, la Confédération paysanne, qui a demandé des éclaircissements sur deux questions clés. Est-ce que les produits du Sahara occidental doivent indiquer explicitement leur véritable origine plutôt que d'être étiquetés comme marocains? Et est-ce que les autorités françaises ont le pouvoir d'interdire l'importation de ces produits en cas de non-respect des exigences d'étiquetage? En 2022, le Conseil d'État français avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour a statué en octobre dernier, on en a parlé, que les produits en provenance du Sahara occidental devaient être correctement étiquetés pour éviter d'induire les consommateurs en erreur. Elle a également souligné que même si les exportateurs de melons et de tomates du territoire du Sahara occidental n'avaient pas respecté les réglementations en matière d'étiquetage, l'autorité d'imposer les interdictions d'importation appartenait uniquement à l'Union européenne et non aux États membres individuels. Suite à cette décision de l'Union européenne, le Conseil d'État français affirme que les produits du Sahara occidental doivent être étiquetés comme tels et que la mesure d'interdiction demandée par la Confédération paysanne relève de la responsabilité des autorités européennes. L'ONG Western Sahara Resource Watch, WSRW, c'est-à-dire l'Observatoire des ressources du Sahara occidental, a rapporté qu'en 2022 seulement, les exportations agricoles et halieutiques du Sahara occidental vers l'Europe s'étaient élevées à 590 millions d'euros. À la même période, dans une note juridique, le Conseil de l'Union européenne admet que la plus haute juridiction de l'Union européenne a définitivement annulé les accords commerce et de pêche Union européenne-Maroc tels qu'ils s'appliquaient au Sahara occidental, marquant une victoire claire dans la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination. C'était le 4 mars 2024, la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne s'était prononcée sur 4 recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne, soutenue par plusieurs États membres et des entités marocaines, contre des arrêts antérieurs du tribunal qui avaient annulé les accords. Les arrêts confirment que les accords de commerce et de pêche Union européenne-Maroc ont été illégalement étendus au Sahara occidental sans le consentement de son peuple, contrairement à ce qu'exige le droit international. Dans une note d'information datée du 11 novembre 2024, le service juridique du Conseil de l'Union européenne reconnaît un précédent juridique crucial. Le Front Polisario, le représentant à l'ONU du peuple sahraoui, a le droit de contester les accords de l'Union européenne qui affectent le Sahara occidental. Cela contredit directement les tentatives de l'Union européenne de contourner le Polisario et de négocier avec le Maroc, qui n'a ni souveraineté ni pouvoir administratif sur le territoire. Le service juridique du Conseil de l'Union européenne reconnaît que la Cour a réaffirmé des principes du droit international. Qui sont la qualité juridique du Polisario. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que le Polisario est une entité juridique capable de porter des affaires devant les tribunaux de l'Union européenne. La violation de l'autodétermination. Les arrêts soulignent que les accords ont violé le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental en appliquant les conditions commerciales et de pêche de l'accord Union européenne-Maroc à son territoire sans son consentement. L'absence de consentement des Sahraouis. La Cour a jugé que les consultations avec les acteurs partenaires du Maroc au Sahara occidental n'équivalaient pas à l'obtention du consentement du peuple sahraoui. Le service juridique ajoute que la Cour fait en outre une distinction entre le peuple du Sahara occidental et la population du territoire et que la majorité des habitants actuels n'appartiennent pas à ce peuple et une grande partie de ce dernier est en exil. Les conditions strictes du consentement présumé concernent le peuple. Les services juridiques expliquent que le consentement ne peut être présumé que si l'accord prévoit que le peuple lui-même, qui ne peut être assimilé à la population du territoire en question, reçoit un bénéfice spécifique, tangible, substantiel et véritable de l'exploitation des ressources de ce territoire, proportionnel au degré de cette exploitation. Absence de tout bénéfice pour le peuple du Sahara occidental, autre point. Les accords ont bénéficié au Maroc et aux flottes de pêche européennes, mais n'ont pas fourni au peuple sahraoui d'avantages véritables ou proportionnels. Étiquetage incorrect des produits. La Cour a également statué que les produits agricoles du Sahara occidental ne peuvent pas être étiquetés comme marocains, mais comme originaires du Sahara occidental, reconnaissant ainsi le statut juridique séparé et distinct du territoire. Pendant des années, l'Union européenne a ignoré les décisions de ses propres tribunaux qui concluaient que les accords avec le Maroc couvrant le Sahara occidental étaient illégaux. Fin janvier, donc, pour la première fois, le service juridique du Conseil de l'Union européenne reconnaît que le peuple sahraoui a gagné devant les tribunaux. Le service juridique du Conseil de l'Union européenne confirme que les institutions de l'Union européenne doivent désormais prendre des mesures pour se conformer aux arrêts de la Cour. Et selon l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, l'Union européenne est également tenue de rectifier ses accords illicites et d'adopter des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles mal étiquetés originaires du Sahara occidental. Macron, l'ami des dictateurs. Macron, profitant de son déplacement à Mayotte, a fait halte à Djibouti, place stratégique abritant l'une des dernières bases militaires françaises en Afrique, puis à Addis Abeba pour y rencontrer le 21 décembre celui qu'il qualifie d'ami personnel, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Une amitié aveugle à la politique de ce dictateur qui a vite abandonné les prétentions démocratiques affichées lors de son arrivée au pouvoir en 2018. Comme ses prédécesseurs, il a foulé aux pieds le fédéralisme ethnique affirmé dans la Constitution. La guerre menée de 2020 à 2022 dans la province nord du Tigré, suivie d'un blocus affamant sa population, a tué 600 000 personnes, selon le représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. La guerre ravage toujours les régions Oromia et Amhara, où l'armée éthiopienne se livre à des exactions massives de civils, comme l'a révélé Human Rights Watch en avril 2024. Malgré ces massacres, Macron a salué le projet d'unité éthiopienne d'Abiy Ahmed, soutenant y compris sa revendication d'un accès territorial à la mer Rouge. Tout en participant à l'étranglement du pays et de sa population via la dette et l'accord imposé par le FMI et la Banque mondiale, Macron a annoncé un versement de 25 millions d'euros au budget éthiopien à la discrétion des seules autorités et un prêt de 80 millions pour la modernité du réseau électrique à réaliser par des entreprises françaises. Sans compter une présence militaire tricolore, certes modeste, assurée par des formateurs auprès de l'armée éthiopienne. Le redéploiement de la France-Afrique, contesté dans le précaré francophone, est en marche en Afrique orientale. Chapitre extraction responsable en question. Le groupe minier français Eramet exploite une mine itinérante de sable au Sénégal. Eramet, Grande Côte, une drague reliée à une usine flottant sur un lac artificiel qui sépare les minerais du sable qui est rejeté. Depuis plusieurs mois, cette entreprise s'attire la colère des habitants de la région. Des tensions avivées par un audit commandé par Eramet sur l'impact environnemental de ses activités. Le rapport provisoire, établi en juin 2024, n'a en effet toujours pas été rendu public par le certificateur IRMA. Les communautés locales, elles, déplorent les expropriations contre des sommes dérisoires, ainsi que l'impact sur les ressources hydriques et les dégâts sur l'environnement. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a promis début janvier d'étudier le dossier. L'exercice s'avère délicat. L'ancien responsable logistique d'Eramet, un proche de sa PDG, est aussi l'ancien ministre des Transports et, depuis décembre, le président de l'Assemblée nationale. Tout en distribuant de l'argent aux préfets, sous-préfets, chefs de village, rapport 2022 et 23 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, Eramet employait donc un cadre du PASTEF, le parti au pouvoir depuis mars 2024, alors dans l'opposition. Voilà une stratégie imparable pour continuer à pomper du sable jusqu'à plus soif, et tant pis si la zone devient invivable. Une suite. La mine d'or de Kibali, découverte en 1998 dans le Haut-Uele en République démocratique du Congo, et exploitée par la multinationale Barrick, vient de faire l'objet d'une enquête accablante de Pax Netherlands Peace Foundation. L'ONG s'est intéressée pendant près de 3 ans aux conditions d'expulsion des populations habitant les quartiers de Mej et Bandaï. Les différents témoignages qu'elle a recueillis montrent que les habitants ont été délogés violemment, leurs maisons détruites, sans aucune solution de relogement. Et après avoir démoli toutes les maisons, ils nous ont laissés sous la pluie, indique une personne citée dans le rapport. Barrick s'en défend, affirmant que les seules familles qui n'ont pas été relogées occupaient de manière illégale le terrain. Pax démontre que ces affirmations sont fausses. Il n'y a probablement jamais eu de réinstallation des ménages et de compensation des champs, ou du moins pas de manière complète. Le rapport révèle également que lors de ces expulsions, la police a ouvert le feu, tuant au moins 3 habitants. Pax épingle au passage Bouygues Construction, filiale du géant français du BTP, qui assurait en sous-traitance les travaux de terrassement des mines à ciel ouvert pour la société Kibali Mining Service. Il incombe en effet aux entreprises d'éviter de causer ou de contribuer à causer des violations des droits humains, mais aussi de s'efforcer de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives sur les droits de l'homme. Mais l'entreprise Bouygues se dit non responsable, arguant qu'elle n'avait aucune autorité, aucun pouvoir de décision, ni aucune responsabilité dans la gestion des opérations, et qu'elle n'a bien entendu aucune implication dans les événements relaté dans le rapport. L'État belge a été condamné début décembre 2024 à verser des réparations à 5 femmes métisses enlevées à leur mère et placées de force dans un orphelinat du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo, avant l'indépendance de 1960. L'État belge a été le pouvoir colonial du Congo de 1885 à 1960. renversant le jugement de première instance prononcé en 2021, la Cour d'appel de Bruxelles a estimé que les faits n'étaient pas prescrits et que ces enlèvements systématiques basés sur l'origine constituaient un crime contre l'humanité, conformément au droit international applicable en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. En première instance, le tribunal avait estimé que les faits étaient prescrits. Pour les juges de la Cour d'appel de Bruxelles, non seulement les faits à l'encontre des métis ne peuvent pas être prescrits, mais en outre, ils ont été motivés uniquement par leurs origines. C'est donc par sa politique raciale que l'État colonial a commis un crime contre l'humanité. La Cour d'appel se réfère d'ailleurs au procès de Nuremberg, qui ont jugé le régime nazi et les avocats des cinq métis avaient plaidé des similitudes avec le procès de l'organisme Rucha, le Bureau pour la race et le peuplement. Les cinq femmes métis nées entre 1946 et 1950 d'un père belge et d'une mère congolaise avaient été enlevées à leurs mères respectives sans l'accord de celles-ci avant l'âge de 7 ans, par l'État belge en exécution d'un plan de recherche et d'enlèvement systématique ciblant les enfants métis uniquement en raison de leurs origines. Les femmes, Léa, Monique, Noël, Simone et Marie-Josée, ont été séparées de leurs parents quand elles avaient entre 2 et 4 ans et placées de force dans la mission catholique Katande, tenue par des religieuses belges dans la province du Kasaï, dans l'ex-Congo belge. Les visites de leur mère, rares et compliquées, n'étaient pas encouragées, indiquaient les femmes, car le but de notre transfert était précisément de nous couper de nos racines africaines tout en nous laissant dans l'ignorance de l'identité de notre père belge. Les métis ou mulâtres, enfants de la honte et du péché, selon les autorités politiques et religieuses de l'époque, représentaient une double menace aux yeux du régime colonial. Je cite l'avocate, « Selon celui-ci, il mettait en péril la suprématie de la race blanche et risquait en outre de fomenter une révolte des Noirs. Leur enlèvement est un acte inhumain et de persécution constitutif d'un crime contre l'humanité en vertu des principes de droit international reconnus par le statut du tribunal de Nuremberg intégré dans le droit international. » C'est écrit dans les conclusions de la Cour. L'État belge est condamné à indemniser le préjudice moral des plaignantes et à les dédommager à hauteur de 50 000 euros chacune, la somme réclamée dans la plainte qui avait été déposée en 2020. Le procès a été le premier en Belgique à mettre en lumière le sort réservé aux métis nés dans les anciennes colonies belges, Congo, Rwanda et Burundi. La plupart d'entre eux n'étaient pas reconnus par leur père et ne devaient se mêler ni aux Blancs ni aux Africains. En 2019, le gouvernement belge avait reconnu la ségrégation ciblée subie par ces métis des ex-colonies et déploré des pertes d'identité avec la séparation des fratries, y compris au moment des rapatriements en Belgique après l'indépendance du Congo. La politique systématique des autorités coloniales belges a arraché entre 14 000 et 20 000 enfants métis à leur mère congolaise et à leur village à partir de 1915. Entre 1960 et 1966, la France a procédé à 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien, 4 explosions atmosphériques à Régane de février 1960 à avril 1961 et 13 souterraines à Inekker entre novembre 1961 et février 1966. Fin décembre 2024, le président algérien Abdelmajid Tebboune avait exhorté la France à venir nettoyer les sites. La France est devenue une puissance nucléaire et a laissé des maladies en Algérie. Il faut venir nettoyer. C'est ce qu'il disait. En février 25, le Sénat algérien a voté une loi demandant à la France d'assumer pleinement ses responsabilités dans l'élimination des déchets radioactifs après les essais nucléaires réalisés au Sahara dans les années 1960. La France, selon Ibrahim Bougali, a la responsabilité de nettoyer les zones contaminées par les radiations et les déchets nucléaires et de remettre à l'Algérie les archives complètes des sites d'essai afin que nos experts puissent évaluer les dégâts et prendre les mesures appropriées à leurs égards. Des crimes nucléaires, selon Ibrahim Bourhali, le président de la Chambre basse du Parlement algérien, qui s'exprimait en février à l'occasion d'une journée d'études organisée à l'Assemblée populaire nationale pour le 65e anniversaire des premiers essais nucléaires. Petit retour dans le temps. En décembre 2007, à la suite de la visite de Sarkozy à Alger, un comité algéro-français avait été mis en place pour établir un état des lieux sur les sites pollués afin d'en diagnostiquer la radioactivité, d'en déterminer les risques sur les habitants et l'environnement et de proposer des mesures de réhabilitation, sans parvenir à clore la question. En 2014, un nouveau groupe de travail avait vu le jour en application de la Déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie, signée en décembre 2012 lors de la visite du président Hollande. Puis en 2021, dans son rapport sur la mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie, l'historien Benjamin Stora avait appelé à la poursuite du travail conjoint concernant les lieux des essais nucléaires en Algérie et leurs conséquences. Sans plus de résultats. En février 2024, la branche française de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, c'est-à-dire l'ICAN, dénonçait dans un communiqué le fait que la France traite ces questions avec une grande confidentialité en invoquant des secrets de défense nationale et de sécurité. Elle refuse toujours de divulguer les cartes précises qui révéleraient les emplacements des déchets nucléaires et qui permettraient d'identifier précisément les sites d'enfouissement de ces déchets, déplorait l'ONG. Selon l'estimation faite par l'agence Algérie Presse Service en 2012, les essais nucléaires effectués en 1962 ont rendu malades au moins 30 000 Algériens. L'association Taourirt, représentée par Boubacar Ibé, œuvre à la collecte des témoignages et à la sensibilisation des habitants sur la persistance des radiations. Elle recense les effets des essais, notamment les maladies et les malformations congénitales qui affectent encore la population. Une autre association dite du 13 février 1960 est basée à Reagan, effectue le même type de travail. Toutes deux réclament une reconnaissance internationale et une enquête sur ce qu'elles considèrent comme un crime contre l'humanité. À ce jour, un seul Algérien figure parmi les 545 victimes indemnisées, pour l'essentiel des contaminés en Polynésie française, par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, CIVEN, créé par la loi Morin en 2010. Un constat accablant, mais que le CIVEN justifie en expliquant que les dossiers reçus d'Algérie, 52 seulement sur un total de 1739, ne répondent pas aux critères de la loi Morin. Les demandes seraient trop mal ficelées et incomplètes pour que Paris puisse donner suite. En juillet 2024, Jean-Marie Collin, directeur de l'ICAN France, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, et intervenant au sein du Master de Génération Future et Transition Juridique à Sciences Po Rennes, et Patrice Bouvray, directeur de l'Observatoire des armements, ont publié l'opinion suivante via le site du Club des juristes. Donc, indemnisation des victimes d'essais nucléaires, l'échec de la loi Morin. Ce que dit la loi Morin. 50 ans après le premier essai nucléaire français, le 13 février 1960 à Reagan, au sud du Sahara, le ministre de la Défense, Hervé Morin, a fait voter une loi, 2010-2, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, entrée en vigueur le 5 janvier 2010. Obtenue grâce à la mobilisation de la société civile et d'acteurs politiques, cette loi vise les personnes souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français pour permettre d'obtenir réparation intégrale de son préjudice. La demande de réparation pouvant être présentée par la victime ou ses ayants droit. Le demandeur doit répondre à trois critères afin que son dossier d'indemnisation soit accepté. Avoir été présent dans une zone géographique, Polynésie ou site d'essai algérien, durant la période des 210 explosions de bombes nucléaires à des fins expérimentales, en Algérie du 13 février 1960 au 31 décembre 1967 et en Polynésie du 2 juillet 1966 au 31 décembre 1998, et être atteint d'une des maladies radio-induites listées par décret en Conseil d'État. Il faut remarquer que les zones contaminées de Polynésie française, comme les atolls de Mururoa, de Fagantofa, et certaines zones de l'atoll de Oa et de l'île de Tahiti, et du Sahara, le centre d'expérimentation militaire des oasis et le centre saharien des expérimentations militaires, étaient décrites, à l'article 2, dans la version initiale de la loi. Mais à la suite de la déclassification de documents montrant l'étendue des retombées radioactives et sous pression des associations de victimes, Association des vétérans des essais nucléaires de Mururoa et Tatou, le terme « zone exposée de Polynésie » a été remplacé par « tout ce territoire » selon l'article 53 de la loi 2013-1168 du 18 décembre 2013. Concernant les zones d'essai en Algérie, le décret du 15 septembre 2014 précise au contraire au degré près les zones du Sahara, créant des secteurs parfois angulaires. De même, le nombre de maladies radio-induites a lui aussi évolué depuis 2010. Si au départ 21 maladies cancéreuses étaient listées comme éléments de reconnaissance, deux autres ont été ajoutées via l'article 7 du décret 2019-520 du 20 mai 2019. Là aussi, cette évolution ne résulte pas d'un choix de l'État, mais du travail des associations de victimes. 2010-2024, un bilan juridique très amer. Le nombre de personnes potentiellement exposées aux retombées radioactives est de 400 000. 150 000 personnels civils et militaires ayant participé aux campagnes nucléaires 1960-1998, 210 000 Polynésiens et 40 000 Algériens. Or, selon le rapport d'activité 2023 du CIVEN, il n'a été enregistré que 2 846 dossiers de demande d'indemnisation provenant des militaires ou des civils ayant travaillé sur les sites d'essai et des populations algériennes et polynésiennes depuis 2010. La faiblesse de ce chiffre interroge, et ce malgré l'augmentation du nombre. 217 en 2021, 328 en 2022, 564 en 2023. Concernant l'obtention du statut de victime des essais nucléaires français, seulement 1026 personnes, 807 directement via le CIVEN et 219 via un recours en justice, l'ont acquise. Dans le détail, ce sont 607 métropolitains, 417 polynésiens et 2 algériens. Soit depuis 2017, tout juste 36% des demandeurs qui se sont vus attribuer ce statut. Le tabou du sujet des conséquences des essais nucléaires, les difficultés pour les demandeurs d'obtenir leurs dossiers médicaux ou encore la peur de ne pas se voir reconnaître comme victime peuvent expliquer en partie les faibles statistiques. Mais l'explication principale du manque d'efficacité de ce processus d'indemnisation réside, selon le point de vue des observateurs de ce processus depuis sa création, principalement en des raisons techniques et politiques. Tout d'abord, il y a eu jusque très récemment une absence de volonté de faire connaître cette loi dans les langues des populations affectées. Le CIVEN n'a obtenu cette capacité du pouvoir politique de faire traduire les dossiers de demande d'indemnisation en polynésien et en langue algérienne, respectivement qu'en 2020 et fin d'année 2023. De plus, les démarches s'effectuent pour l'essentiel de manière numérique, nécessitant un accès à Internet, ce qui n'est pas toujours aisé dans les 118 îles polynésiennes ou au cœur du Sahara. Deuxièmement, les zones en Algérie délimitant les retombées des essais nucléaires se situent toujours à la limite des villages alentours, écartant ainsi de nombreuses populations. Remarquons que les zones en Polynésie avaient été des caractéristiques restrictives similaires au départ, mais qu'elles furent élargies en 2013 à l'ensemble du territoire polynésien. Les demandeurs, notamment la population nomade, font aussi face à une difficulté majeure pour présenter des documents prouvant leur présence sur des zones du Sahara aux dates déterminées. Troisièmement, Il a fallu attendre 2022, toujours sous pression des élus polynésiens et des associations de victimes, décision actée en juillet 2021, pour que la mission Aller Vert, rattachée au Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, débute ses travaux pour accompagner les demandeurs polynésiens. Une telle mission aurait dû être créée dès 2010. À noter qu'il n'existe aucune mission similaire pour aider les populations demandeuses en Algérie. Quatrièmement, le non-respect de la loi. L'article 7 de la loi Morin a créé une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Elle est chargée du suivi de l'application de la loi et elle est consultée sur les modifications éventuelles à réaliser, telles que sur le nombre de maladies radio induites. La loi prévoit une réunion deux fois par an de cette instance. Or, la dernière rencontre s'est tenue le 23 février 2021. La dissolution décidée par le président a mis brutalement un terme à la commission d'enquête parlementaire débutée le 30 avril 2024 relative à la politique française d'expérimentation nucléaire, à l'ensemble des conséquences de l'installation et des opérations du Centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu'à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation. Portée par la députée polynésienne Mereanna Reid Arbelot et le député Didier Le Gac, cette commission avait pour objectif d'améliorer cette loi et d'impulser une dynamique politique nécessaire à son bon fonctionnement. Reste à savoir si la 18e législature parlementaire qui s'est ouverte en juillet 2024 se saisira à nouveau de ce sujet où la santé humaine est en jeu.
نحن الأنفس نفدي كل جزء من ثراك. إننا أشبال أسد فاصرفينا لعداك. لك في التاريخ ركن يشرق فوق السماك. لك في المنظر حسن ظل يغري ببهاك.
رمز بك دائر وجبال رائع.